Le nombre de Vénus, Juliana, sur Canal B.
Bonjour tout le monde. C'est l'émission Le Nombril de Vénus et aujourd'hui je suis en compagnie de Olivia Elkaïm, journaliste et écrivaine. Elle est en face de moi ici dans le studio de Canal B et c'est un vrai bonheur. Bonjour Olivia.
Bonjour Juliana.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. On est ensemble jusqu'à la fin de l'émission pour parler de ton livre qui s'appelle « Fille de Tunis », paru aux éditions Stock le 23 août de 2023. Et une histoire assez incroyable. Tu racontes la vie de ta grand-mère.
Oui, c'est le personnage principal du livre. Ma grand-mère Arlette, ça s'ouvre en fait sur une scène qui a vraiment eu lieu dans sa vie. Elle a 12 ans, elle vit dans la médina de Tunis. Son père l'attache à un arbre. C'est une petite fille très sauvage. Elle est attachée à l'arbre, ligotée, ficelée. Il s'en va, il est militaire, il part en mission et il se tue sur la route.
Oui, alors ça c'est le début du livre. Et il est combien même très poignant d'ouvrir cette histoire sur cette scène-là. Mais il y a une raison.
Oui, il y a une raison, j'allais le dire. En fait, c'est une femme très libre, Arlette. Je l'ai très bien connue, puisque c'était ma grand-mère. C'est une femme qui est attachée à 3 reprises dans sa vie par des hommes qui ne supportent pas sa liberté.
Quand elle était enfant, cette liberté l'amenait à quitter la maison par moments pour aller vers la mer, pour aller vivre sa solitude. Mais est-ce que tu as compris, en fait, pourquoi elle avait besoin de sortir de chez elle, de chez ses parents, pour aller s'isoler de telle façon?
Je pense que, vous savez, dans chaque personnage, il y a un peu de soi. Même dans les personnages hommes et très lointains, et même dans les salauds. Mais chez Arlette, je pense que sa liberté et son besoin de fuir la famille, de fuir le foyer et de se réfugier près de la mer, dans des grottes, ça avait quelque chose à voir avec mon propre tempérament, on va dire. Et quand j'écrivais, j'étais à Belle-Île-en-Mer, pas très loin de Rennes, donc. Et il y avait des sensations que j'éprouvais au bord de la mer. C'est une île dans laquelle il y a beaucoup d'anfractuosité, de failles dans les rochers. Ben, je pense que je me voyais par superposition en elle, petite fille.
C'est ça, c'est ce qu'on va comprendre quand même dans ce livre qui est un roman. Donc cette histoire, elle est vraiment ton histoire et l'histoire de la grand-mère.
Oui, c'est complètement inspiré de faits réels, de faits historiques aussi, puisque c'est la manière dont ma propre famille, dont le destin de ma propre famille a été percuté par la décolonisation et la fin du protectorat français en Tunisie.
Oui, voilà, nous sommes en train aussi de parler d'une période très spécifique. Donc là, on est dans les années...
La mort de l'arrière-grand-père, donc du père d'Arlette, c'est en 45, mais on va voir l'évolution de ma grand-mère dans les années 50 sous le protectorat et au moment de l'indépendance de la Tunisie, donc dans les années 50, puis dans les années 60 quand elle se réfugie et qu'elle s'exile à Marseille.
On va aussi comprendre que cette fuite et le fait qu'on démarre le livre en disant que les choses ne vont pas bien se terminer, hein, c'est une phrase très forte dès le début du livre.
Oui, ce que je dis exactement, ça va mal se finir. En fait, un des personnages, en l'occurrence le père d'Arlette, a conscience de la destinée tragique de sa fille. Et donc, il y a quelque chose de la tragédie à dire dès le début du livre, ça va mal se finir.
Mais
c'est-à-dire que ça va mal se finir.
Il est très responsable d'ailleurs de cette première tragédie. Il s'est tué en moto quand elle est partie, il laissait sa fille ligotée.
C'est-à-dire que en fait, la famille va faire porter, et notamment sa mère va faire porter à Arlette la responsabilité de la mort du père. Finalement, tu l'as énervé, il était énervé, il n'a pas maîtrisé son véhicule, il est mort. Donc ça commence très mal.
Oui.
Ça commence très mal pour elle. Il va y avoir une période de dolce vita quand elle va se marier avec mon grand-père dans la Tunisie coloniale. Ils ont de très beaux moyens d'existence, etc. Donc ça se passe bien. Mais après, l'exil est une deuxième césure dans la vie de ma grand-mère et ça va précipiter sa chute.
Quand on parle aussi de ses parents, on comprend qu'ils avaient des moyens également et ils vivaient eux aussi déjà dans une espèce de dolce vita. Et c'était quand même des parents plutôt aimants, plutôt présents. Ils n'étaient pas forcément très distanciés, d'une certaine façon.
Oui, bien sûr. En fait, bon, surtout si on parle des familles nord-africaines, comme c'était le cas de ma famille. Alors, ils étaient d'origine corse, d'origine sicilienne, de plein d'origines méditerranéennes en Afrique du Nord. Donc, tout le monde vivait ensemble. Il y avait une sorte de communauté de vie tous ensemble. Mais ça pouvait aussi peser, en fait, cette vie comme ça, tous un peu les uns sur les autres, on va dire. Et je pense que c'est ça aussi que fuyait Arlette.
Son paternel qui s'est tué, qui était militaire, mais qui avait des passions. C'était un homme, on entend, érudit, puisqu'il lisait énormément, entre autres. Il était cultivé, cet homme, et il avait une passion, il montait à cheval.
Oui, il était jockey le dimanche. Et ça va avoir un sens ensuite dans la vie d'Arlette. C'est-à-dire qu'il prenait sa fille, il l'emmenait à moto à l'hippodrome de Ksar Saïd à Tunis. Et donc, elle regardait son père courir à cheval. Et ensuite, ça va avoir un vrai effet sur elle. Ce que ça veut montrer, ça, dans le texte, c'est que ma grand-mère était une personne addictive, notamment les 40 dernières années de sa vie. Et ce que je veux montrer, c'est qu'une addiction, elle prend racine assez tôt dans la vie des gens. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain avec un grand malheur. C'est quelque chose, l'addiction, qui naît très tôt dans la vie.
Qui est enracinée.
Oui, c'est enraciné. Je pense que la passion du jeu de son père, la passion du cheval. Elle, sa propre passion des hippodromes et des courses de chevaux plus tard, tout ça est entremêlé en réalité dans sa vie.
Bien sûr, c'était probablement déjà un enfant très sensible, étant en présence de son père qui était jockey, en allant dans ses compétitions, en étant dans cette ambiance, ressentait un vrai enthousiasme. Il y avait quelque chose qui était ébranlé dans son esprit.
Sur les hippodromes, quand on fréquente les hippodromes, on sent une très grande ferveur pour la course, pour les chevaux. Il y a du bruit, il y a du brouhaha, il y a une sensualité du cheval. Et tout ça, j'essaie de le montrer dans le livre, à la fois quand elle est petite fille et qu'elle regarde son père courir, et plus tard, quand elle fréquente les salles de Paris et qu'elle va jouer au point de mettre toute la famille sur la paille.
Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'entre cette ferveur et l'addiction de jeu, il n'y a qu'un pas qu'on peut franchir ou pas. Et là, Arlette, bien sûr, elle est allée avec les deux pieds. Il y a une autre chose qu'on va effectivement ressentir très fortement dès le début du livre, c'est l'influence de Arlette, de sa vie, par rapport à ta propre vie.
Oui, alors tu vois, en fait, quand on écrit, il faut savoir d'où on parle. En tout cas, c'est très important que le lecteur sache qui parle et de quel endroit il parle. Et évidemment, j'aurais pu faire un livre uniquement sur la destinée de ma grand-mère, sa destinée d'exilée, sa vie en Afrique du Nord, puis sa vie en France ensuite. Mais je pense que ça aurait eu moins d'ampleur. Et ça, ce qui permettait à mes yeux au lecteur de s'identifier, c'était de lui expliquer où je suis moi dans cette histoire. Et on va voir, en fait, il y a une narratrice qui s'appelle Olivia, donc ça ne trompe personne, c'est bien de moi dont il s'agit. Cette Olivia, elle a un rapport très proche avec cette grand-mère. Et elle est, alors je peux dire je, puisque c'est vraiment de moi dont il s'agit, je suis en quête de mes origines. Je vais, d'autant plus que ma mère et ma tante ne veulent pas de ce livre, sont enfoncées dans le silence et la honte de qui a été leur mère, de qui a été Arlette. Et moi, je vais être en quête de mes origines et je vais poser la question suivante, c'est à qui dois-je d'être moi ? À qui dois-je d'être la femme que je suis ? Et en cherchant Arlette, en fait, c'est moi que je trouve.
Oui, parce qu'il y a les souvenirs d'enfance, des moments partagés avec Arlette, et puis cet énorme vide que tu peux ressentir lorsque, en questionnant tes parents, en allant vers eux, on ne trouve pas de réponse. Ça t'a demandé quand même un travail titanesque pour pouvoir parvenir à trouver toutes les pièces et composer une histoire.
Oui, je dois admettre que là, aujourd'hui, ça fait un an que le livre est terminé. Mais je suis très, très fatiguée. J'ai comme une sorte de contre-coup de l'écriture de ce livre parce qu'il m'a demandé plusieurs strates d'enquête. C'est-à-dire la strate d'enquête à l'intérieur de moi. J'ai enquêté sur mes propres souvenirs et sur ma façon dont, petite fille, je percevais la vie d'Arlette, puisque les lecteurs le découvriront dans le texte, mais c'était une femme qui vivait avec deux hommes, qui faisait un ménage à trois, et ça, ça questionnait beaucoup la petite fille que j'étais. Je ne comprenais pas le statut du deuxième homme, donc que j'ai interrogé a posteriori en étant adulte. Il y a la strate aussi d'enquêter sur l'histoire de la Tunisie, dans les archives militaires, dans les archives familiales. Donc il y a plusieurs strates d'enquête, de documentation, etc. Avant, une sorte de précipité, comme en chimie, qui permet l'écriture.
Et il y avait aussi l'entourage, donc l'entourage avec des non-dits, l'entourage qui ne veut pas parler, et d'autres personnes qui, presque par miracle, tu as réussi quand même à rencontrer pour avoir des bouts d'histoire qui racontaient davantage aussi
oui,
sur la vie.
Je me souviens avoir rencontré une cousine très éloignée que ma mère ne voulait absolument pas que je rencontre. Et de fait, j'ai compris pourquoi je suis allée la voir quand même, malgré l'interdit de ma mère. Et cette cousine m'a dit, mais tu sais, Jojo, donc le deuxième homme au statut indéfini, ben Jojo, ça a été le grand amour de ta grand-mère. Et elle m'a vraiment rendu service parce que ça a mis des mots là où il n'y avait que du silence, du vide et un grand point d'interrogation.
Est-ce que tu as compris la place de Jojo après tout, puisque en plus, comme tu le racontes dans le livre, on n'a pas l'impression que c'est vraiment un homme avec un énorme sex appeal.
Ah non, mais non, mais clairement non. En fait, même quand je regarde les photos, je me dis mais qu'est-ce qu'elle lui trouvait ? D'autant qu'elle est, mon grand-père était plutôt un très bel homme, un Sicilien, macho.
Sauveur.
Voilà. En plus, il s'appelait Sauveur. Voilà,
qui n'a sauvé personne.
Oui, et pas même lui-même. Mais Sauveur avait quand même quelque chose. Ce Jojo, en plus, il avait ce surnom un peu stupide. C'était vraiment pas quelqu'un de très sexy. Et pourtant, elle est restée toute sa vie avec lui et elle s'est même mariée avec lui, 2 ans après la mort de mon grand-père. Donc, j'explique dans le livre
oui, bien sûr,
qu'elle lui trouve et pourquoi elle reste avec lui, mais pourquoi aussi mon grand-père accepte, lui qui était si catho, pratiquant, si macho, pourquoi il accepte la présence de l'autre homme.
Ta grand-mère était quelqu'un d'absolument envoûtant.
Oui, alors, il a fallu que je me désenvoûte quand même pour pouvoir écrire le livre.
Oui, c'est vrai que tu étais complètement envoûtée par elle.
Oui, je suis même allée voir un magnétiseur
oui,
à Belle-Île-en-Mer.
Oh mon Dieu, ce passage, il est énorme.
Mais parce que c'est fou, en fait. J'étais tellement envoûtée que je suis allée voir un magnétiseur qui passe ses mains sur moi, enfin au-dessus de moi, comme un peu une table à repasser. Et puis à un moment donné, il respirait très fort. Et puis il me dit, mais je ne peux rien faire pour vous. Vous êtes deux dans cette carcasse.
Exactement. Désenvoûtez-moi, commandai-je au magnétiseur que je consulte, au fond d'un vallon de Belle-Île-en-Mer. Il me reçoit dans une cahute en pierre, entourée de tamaris. Je m'allonge sur la table en bois massif. Il y passe une pendule au-dessus de mon corps, murmure des prières occultes. J'ai envie de rire et de pleurer, de m'enfuir en gueulant que je n'y crois pas, que je ne crois en rien de toute façon. Il secoue ses boucles grises, plisse les yeux et après une longue inspiration s'écrie « Mais c'est irrespirable !» Il désigne mon corps, pomme ouverte. « Vous êtes deux dans cette carcasse, je ne peux rien faire pour vous, désolée. »
Ça a vraiment eu lieu. Hein. C'est-à-dire qu'il existe vraiment, je ne peux pas donner son nom parce que je n'ai pas son accord, mais c'est un pêcheur à Belle-Île, il est pêcheur et il est aussi magnétiseur. Et c'est une scène qui a eu lieu en juin 2022 et qui donne lieu à cette scène dans le livre. En fait, j'entraîne le lecteur dans une sorte d'expérience limite avec la lecture de ce livre, je crois. Parce que je l'entraîne vraiment avec moi sur les pas d'Arlette et avec moi dans cette tentative de désenvoûtement.
Désenvoûtement, mais aussi dans les sensations que cela te procure finalement. Assez profondément aussi sur tes pensées.
Je pense que c'est lié à un truc que j'ai ressenti quand j'écrivais le livre. J'avais l'impression que mes mots étaient épais. Alors, E-P-A-I-S, hein, de l'épaisseur. Je faisais l'expérience, beaucoup plus que pour mes précédents livres, de l'épaisseur des mots. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de mots dans le livre qui ont un double, voire un triple sens. L'autre chose, c'est que ce sont des mots épais, E-P-E-E, dans le sens où je plante des banderies dans le silence pour le faire parler.
stronger than I thought I could be. So come on.
Vous êtes sur Canal B. Je suis en compagnie d'Olivia El-Kaïm pour Fille de Tunis, son livre paru cette année, donc au mois d'août, aux éditions Stock. C'est un roman, mais pas que. C'est un sacré roman autobiographique. Et là, nous sommes en train de parler de toi, d'Arlette, de Sauveur, de Jojo, de Rosie, de Lola, de tout le monde.
Oui, alors tout est vrai. Ouais. C'est ça qui est génial. Mmh. C'est, je me suis éclatée. D'ailleurs, ça questionne vraiment ce que je vais faire après. Donc là, j'écris un livre pour enfants. Mais j'avais juste besoin de me baisser pour ramasser une matière familiale réelle. Tout est vrai. Les prénoms, à part Lola et Rosie, mm-hmm. parce qu'elles existent, elles sont encore vivantes. Les adresses. Et donc, je me suis vraiment inspirée de tout ce qui m'est arrivé dans mon enfance, de tout ce que je savais d'Arlette, de tout ce que j'ai retrouvé sur Arlette, pour livrer du roman. Alors, ça questionne. Pourquoi oui. c'est un roman ?
Voilà, c'est ça.
Ben, c'est un roman parce que quand je raconte sa vie dans les années 60, à Marseille, dans le Marseille interlope. Quand je raconte sa vie à Tunis dans les années 50, la Dolce Vita, la résidence de France, le théâtre municipal de Tunis, je n'y suis pas. Mmh. Et donc il faut que je reconstitue des scènes. Je ne suis pas en caméra embarquée, j'invente des dialogues. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les dialogues, notamment dans les années 50, quand elle parle avec mon grand-père, évidemment là aussi je n'y suis pas. Donc j'invente leur discussion politique sur la situation... de la Tunisie avec la France, la situation politique, l'avenue de Pierre Mendès France, le discours de Bourguiba pour l'indépendance de la Tunisie. Tout ça, j'invente leurs conversations. Mais je les ai fait valider par une historienne de la Tunisie en lui demandant « Est-ce qu'un couple, à l'époque, comme mes grands-parents, fonctionnaires de l'administration coloniale, est-ce qu'ils pouvaient avoir ce genre de discussion ?» Pour être sûr que c'était au plus proche de la réalité.
Cette période-là, ils étaient fonctionnaires, donc ils avaient des belles places quand même. Ils étaient assez protégés, mais leur vie a complètement basculé au point que ta grand-mère était obligée, bien avant ton grand-père, de quitter cette Tunisie, de quitter cette vie douce qui pourrait rester douce. Et c'est là où elle va se retrouver pour la deuxième fois ligotée dans ton livre.
Ah oui, alors c'est la deuxième partie. Alors, je me suis bien amusée. C'est-à-dire que, bon, il y a une première partie qui est assez indolente dans le livre. Puis, il y a la bascule de 1960. Elle part à Marseille avec ses deux filles assez petites, hein, sous le bras. Ma mère et ma tante, qui ont 6 ans et 1 an. Et on se retrouve dans un Marseille...
Et avec sa mère.
Oui.
La grand-mère,
La grand-mère, oui. On se retrouve dans un Marseille en noir et blanc. vraiment, je ne sais pas si vous voyez le début d'À bout de souffle hein, sur le Vieux-Port. C'est vraiment ça, c'est un Marseille très interlope, quoi, avec des voyous, et ça va aller très très vite. Cette partie-là, elle est, je l'ai écrite comme un roman noir, on va la voir effectivement ligotée dans un bar par des bookmakers à qui elle doit de l'argent.
Ouais.
Et ça, c'était très marrant de, voilà, d'envisager une bascule auquel le lecteur ne peut pas du tout s'attendre. Parce que tout va bien au départ. Enfin, tout va bien. Elle va devoir quitter son pays. Mais finalement, elle se dit, en quittant mon pays, je vais peut-être découvrir une autre... Elle n'a que 27 ans. Découvrir une autre vie, me refaire une vie. Bon, ça va être la dégringolade. Parce qu'elle est exilée. Parce qu'elle comprend rien, comme tous les exilés à la ville où elle arrive.
Et parce qu'elle avait une vie de princesse. Oui, là, elle arrive à un appartement, mais la quantité des robes, de marques, des choses qu'elle a pu s'acheter et même pas porter est assez incroyable quand le sauveur est venu la retrouver à Marseille.
Oui, alors elle va devenir une espèce de panier percé et elle va dépenser de l'argent qu'elle n'a pas ou de l'argent qu'elle gagne au jeu.
Qu'elle espère gagner,
ou qu'elle gagne et qu'elle rejoue. Et donc là, ça va être vraiment, quand je dis la dégringolade, oui, où elle va cavaler derrière le fric. Mmh. Et comme, vous savez, c'est documenté par les médecins, ça, par les médecins psychiatres. Beaucoup d'exilés ont le problème du jeu. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, il y a l'illusion qu'on peut se refaire. Mmh. Se refaire une vie, se refaire une santé, etc. Et donc, elle va penser pouvoir se refaire une belle vie grâce au jeu. Évidemment, c'est une illusion. Et elle continue. Et ça va provoquer des drames familiaux, et dans son couple, et dans sa famille. Et c'est ce qui va présider à l'arrivée de Jojo dans leur couple.
D'ailleurs, à sa mort, une chose qui est extrêmement violente, c'est comment ces deux filles, donc ta maman et ta tante, ont complètement refusé un quelconque héritage de sa part.
Oui, alors c'est là qu'il y a une forme de brutalité, c'est que, pourtant ça donne lieu à une scène assez drôle chez un notaire, enfin avec un notaire, mais en réalité, elles ne veulent pas hériter des dettes, de dettes potentielles, parce qu'on peut les comprendre.
Bien sûr.
Elles se sont fait leur vie, elles ont des enfants jeunes, elles ont un mari, elles n'ont pas envie de devoir payer les dettes de leur mère. Donc elles vont au tribunal et elles refusent l'héritage, sauf que, quand on refuse un héritage, c'est aussi symbolique. Mmh. Et ce refus d'héritage symbolique, moi, il me perturbe beaucoup parce qu'elle nous coupe. Elle coupe l'arbre sur lequel, la branche de l'arbre sur laquelle on est assise, je suis assise. Et à ce moment-là, moi, en écrivant, je retricote quelque chose avec ma grand-mère. Et d'une certaine manière, ce livre, c'est mon héritage.
Tu es devenue un peu une ponceuse d'arbres.
J'aimerais bien, j'adore les arbres. Hein. J'adore les arbres. C'est vraiment, quand je me balade à Belle-Île, j'embrasse parfois les arbres.
Combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre ?
Il y a eu, en gros, un an et demi, deux ans de recherche. Mm-hmm. Et puis après, il y a eu quelques mois d'écriture. Je dirais six mois d'écriture, où j'ai fait que ça, vraiment. Et après, il y a évidemment tout le retravail avec l'éditeur, mais en gros, c'est 2-3 ans avant que ça sorte.
Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement ?
Oui, il y a eu un moment en particulier dont je me souviens parfaitement. C'était début août 2022. J'avais écrit toute la première partie du texte, toute la fin, qui n'est pas drôle, mais par moments quand même, on rigole aussi. Ça se termine pas mal, on peut aussi l'histoire de ma propre libération. Mais le moment de découragement, ça a été de me rendre compte que j'avais enquêté sur tout, sauf sur la manière dont on joue au jeu hippique. Mmh. Et il y avait un tel déni dans ma famille sur l'addiction au jeu de ma grand-mère que je m'étais interdit, mais sans m'en rendre compte, d'aller regarder comment on joue au jeu hippique. Et là, je me suis dit, si je ne fais pas ça, si j'y arrive pas, j'arriverai pas à écrire mon livre.
Est-ce que ça t'a poussé à carrément aller jouer ?
Non. Ça, c'est pas possible quand même. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un monsieur qui a 72 ans, 73 ans, qui vit à Marseille, qui dans les années 70 était addictif au jeu.
Oui.
Et qui m'a donné plein d'infos, qui m'a expliqué la cote des chevaux. Et ça m'a déjà beaucoup aidée. Ensuite, je me suis vraiment littéralement prise au jeu, puisque j'ai acheté France Gallo, j'ai lu France Gallo, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de Léon Zitrone commentant le prix de l'Arc de Triomphe en 74, les pubs avec Pierrette Bresse. Tout un truc d'une certaine époque où le tiercé était un jeu où toute la France jouait. Mmh.
Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Le livre est là, ça y est, il est délivré depuis cet été. Les gens découvrent cette histoire. Tu as parlé de grosse fatigue, de contre-coup,
oui,
mais tout de même.
Oui, il y a un contre-coup de fatigue, mais aussi la joie de voir que le destin de cette grand-mère plaît beaucoup aux lecteurs. Et que j'ai quand même aujourd'hui des lecteurs qui viennent me voir en rencontre pour témoigner de leur affection pour cette grand-mère et pour me parler aussi de leur propre grand-mère, de leur vie, de la famille. Il y a beaucoup d'écho en fait, ça crée beaucoup d'écho chez les lecteurs.
Quand même, cette grand-mère était un vrai soleil. De la Tunisie à Marseille et même en passant par Paris, Olivia El Kaïm, fille de Tunis. Pourquoi c'est pas la fille de Tunis?
Je voulais fille de Tunis parce que c'est un roman qui se place dans une généalogie féminine et méditerranéenne.
Juste pour terminer, puisque là, tu as écrit un livre sur ta grand-mère, mais précédemment, c'était le grand-père.
Oui, j'avais écrit Le tailleur de Relizane sur mon grand-père.
Qui a très bien marché d'ailleurs.
C'était un grand succès populaire, en effet. Et ça parlait de l'histoire de l'Algérie et de la France aussi. Mmh. Donc je crois que là, j'en ai fini avec la famille.
On peut passer à autre chose.
Oui, je vais passer à autre chose, c'est sûr même.
C'est la fin de l'émission Le nombril de Vénus sur Canal B.
Merci, Olivia,
merci
de cette interview. Et merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui à Le Nombril de Vénus. Vous pouvez retrouver cette émission sur canalb.fr. Bon week-end à vous. Allez, bisous. Bye. From and fill.